quand la guerre a éclaté, j'avais 8 ans. Et j'ai pensé que c'est à partir de ce moment-là que ma vie commence. Et je n'ai pas quitté la vraie croix que pour mon service militaire. Être maire du pays, c'est relativement facile. Mais ne plus être maire, c'est pas marrant. J'ai envie de chanter la chanson Edith Piaf, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Non, mes enfants, non.
Et si, pour imaginer le monde de demain, on prenait le temps d'écouter ceux qui l'ont vu changer? C'est la question qui a mis en mouvement une bande d'adolescents de la Vraie Croix, membres du conseil municipal des jeunes. Portés par une envie simple et essentielle, rencontrer, écouter, comprendre et apprendre. Roman et Lohan, 12 ans, Arthur, June et Paul, 13 ans, rencontrent Fernand Le Dirac, 95 ans. Une vie les sépare, un village les réunit. Bienvenue dans cet épisode des Voix du Temps. Première partie, l'enfance avec Arthur.
Nous voudrions commencer cet entretien en remontant le temps, jusqu'à votre enfance. Aujourd'hui, nos journées sont rythmées par le collège, les écrans, les loisirs, et nous imaginons que votre quotidien était très différent. Commençons par le village, la Vraie Croix, quand vous étiez enfant. Ça ressemblait à quoi?
J'ai connu la Vraie Croix avec 10 bistrots, 2 boulangers, 3 épiciers, tout ça dans le bourg.
C'était quoi vos occupations, vos jeux?
Oh, les gens n'avaient pas beaucoup de jeux, on jouait au palais, on jouait... Non, rien de spécial comme jeu. Hein. Ah oui, on jouait à cache-cache. Derrière la chapelle, tout ça, on a fait le couillon là-dedans. Il y avait pas mal d'enfants dans le bourg, chez nous, on était là. À côté, il y avait la maison Louis, les enfants, les boulangers et tout ça.
Et vous étiez tous dans la même école?
Il y avait 2 écoles. Hein. L'école publique, qui était auprès de la chapelle, là, qu'on appelait l'école du Diable. Et l'école privée, qui était en haut du bourg, pour une raison ou pour une autre. On m'a mis, moi, à l'école du Gap. Pourquoi m'amener là-bas? Mais tout ce que je peux savoir, j'étais le plus près de l'église, je n'ai jamais été enfant de cœur. Réfléchissez, ça dit bien ce que ça dit. Comment c'était, puisque moi, j'étais dans l'école du Gap, je n'avais pas le droit.
Est-ce que vous aimiez bien l'école? Vous en gardez des bons souvenirs?
Ah bah oui, à l'école, j'ai pas fait des grandes études. Hein. J'ai été jusqu'à mon certificat et puis c'est tout. Hein. Mais bon, j'étais bon en dessin, en français pas du tout. 20 fautes dans ma dictée, alors c'était pas folichon. Hein. Mais en maths, par exemple, j'étais jeune. Et je vous signalerai quand même que le fait que j'étais bon en dessin, ça a été très important pour le choix de mon travail après.
Est-ce que vous faisiez du sport, du basket, du foot?
Alors, le foot, quand j'étais gamin, non. Mais le foot, oui. Et je reste passionné du foot. L'équipe Saint-Éloi de la Vraie Croix, c'est moi qui l'ai mis en place. Un jour, 2 jeunes se viennent me voir dans le café. Fernand, on voudrait bien une équipe de foot. J'étais à ce moment-là président du comité des fêtes. J'ai réuni le comité des fêtes qui a bien voulu financer et la Saint-Éloi. Et ça tient toujours et j'en suis fier.
Et au final, de votre enfance à la Vraie Croix, est-ce que vous gardez plutôt un bon souvenir?
Oh, moi, j'ai que des bons souvenirs, moi.
Deuxième partie de cet entretien, la guerre et l'occupation. Au micro, Lohan.
Aujourd'hui, nous vivons en paix et c'est parfois difficile d'imaginer ce que c'est de grandir pendant une guerre. Vous aviez à peu près notre âge pendant la Seconde Guerre mondiale et on aimerait bien comprendre comment vous avez vécu ces moments.
Quand la guerre a éclaté, en 1939, j'avais 8 ans. Et j'ai pensé que c'est à partir de ce moment-là que ma vie commence. Mon papa a été fait prisonnier et j'avais 14 ans. Réfléchissez bien ça, hein. 8 ans quand mon papa il est parti à la guerre et j'avais 14 ans quand il est revenu. J'étais tout seul avec ma maman, que 20 ans plus âgée que moi. Je ne vais pas être critique, mais j'ai constaté. Vous vous rendez compte, une jeune femme dans le bistrot de la Vraie Croix, elle avait 28 ans. Il ne faut pas être scandalisé si je vous parle. Je me souviens des vieux charlots qui rôdaient auprès de ma maman. Ça, je l'ai gardé très, très, très gros.
Est-ce qu'il y a une image qui vous reste en tête de cette période ?
Les maquisards qui venaient revolver au poing hein, pour braquer ma mère pour avoir du tabac et tout ça. C'est pas beau, la guerre. C'est pas beau, mes enfants. Non. Et moi, j'ai connu tout ça. Et j'ai connu la mobilisation d'une des chambres de ma maman. Juste à côté du bistrot, il y avait une grande cheminée et les Allemands avaient fait faire une soupe à ma maman. Ils voulaient une soupe. Les jeunes de son temps-là, qui avaient le temps, qui étaient là, quand ils ont su ça, il y en avait un qui chiquait. Il soulevait le couvert de la marmite et il crachait la pâtrelle, si vous voulez, pour donner de la couleur à la soupe. Hein, vous voyez un petit peu dans quel état il me mettait.
Et c'était quoi votre quotidien ? Est-ce que vous aviez des responsabilités d'adulte alors que vous étiez enfant ?
Oui, parce que ma maman, on tenait le café, mais on avait aussi des vaches. Et il fallait que les agriculteurs du coin qui fassent son travail. Eh bien, alors, ils venaient et c'est moi qui allais fournir du travail en conséquence. Si bien que quand on coupait le blé... Je mettais les liants, si vous voulez, clac, 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 derrière, etc.
Et est-ce que tout votre quotidien, à ce moment-là, tournait autour de la guerre ?
Il y avait un tas d'idées qui passaient. On nous apprenait des chansons hein, pour venir aider les mamans et les enfants. Et je me souviendrai toujours de la religieuse qui nous avait fait écrire et chanter. Vous voulez que je vous la chante ? Hein? Mon papa était prisonnier. Petit papa, envoie-nous des nouvelles, car pour le moment, petite mère n'est pas là. Elle pleure souvent, elle a mal à la tête. Chaque fois qu'elle voit passer les petits soldats, quand reviens-tu ? Petit papa, voyez ce qu'on nous apprenait à l'école.
Au sortir de la guerre, début de la vie professionnelle. Troisième partie avec Paul.
On a 12 ou 13 ans et on nous demande déjà de réfléchir à notre futur métier. Et c'est pas toujours facile de savoir quoi choisir. Est-ce que c'était facile pour vous ? Comment est-ce que vous avez trouvé votre voie ?
Mon papa, il était donc menuisier, mais je vous ai dit, il était parti en Allemagne et il avait un atelier qui mettait en planche. Et il m'a demandé, quand il est revenu, qu'est-ce que tu veux faire ? Je lui ai dit tout bonnement, menuisier, et c'est comme ça. On partait tous les jours à la campagne avec la hache sur le dos et on allait travailler dans les fermes. Ce n'est qu'après que je me suis aperçu que j'avais eu des dons. Et c'est pour ça que j'ai choisi le métier du bois.
Quelles étaient les conditions de travail à l'époque ?
Oh, ben les conditions de travail de l'époque où on était. On travaillait dur peut-être, mais il n'y avait pas les exigences de maintenant, les normes comme ils appellent. Si je devenais patron tout d'un coup, à nouveau, avec des salariés, puisque j'en ai eu des salariés, je deviendrais fou. C'est clair et net. Parce que je me souviendrai toujours, toujours, quand j'avais reconstruit l'atelier, c'était en 1960, c'est pas tout neuf, j'ai eu la visite d'un inspecteur du travail. C'était une dame. Et j'étais à travailler à la dégauchisseuse. Cette dame-là, elle a eu la maladresse de me dire « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Alors je lui ai dit « vous veillez ou que le maçon n'a pas mis de pierre là, ben vous prenez le... » Elle a compris. Mais ça serait maintenant, j'irai en prison.
Comment vous avez développé votre entreprise au cœur du village ?
J'ai toujours été ambitieux, sans doute. Et puis bon, je me suis aperçu que j'étais doué pour le bois et tout ça. J'ai fait le pari de réussir et j'ai réussi. J'ai modernisé l'atelier. J'étais l'un des artisans le plus moderne du coin avec chauffage dans l'atelier, aspiration de copeaux et tout. J'étais spécialisé en menuiserie du bœuf, mais moi je faisais que le massif.
Ce que vous fabriquiez était destiné au village ou ça allait plus loin ?
J'allais livrer partout où il fallait livrer. Et j'allais souvent dans la région parisienne. J'avais un cube, là, vous savez, Citroën, avec une galerie. Je faisais mon chargement le vendredi. Je partais le vendredi soir à 10h ici de la Vraie Croix. Et j'arrivais dans la région parisienne à 7h. Je commençais mes livraisons un peu partout. Il n'y avait pas les circulations maintenant, il n'y avait pas le périphérique, il y avait simplement les boulevards extérieurs pour ceux qui ont connu Paris. Voilà. Mais c'était bien, vous n'en faites pas. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans votre métier ?
De créer quelque chose. Savoir que c'est moi qui l'ai fait. J'étais menuisier, mais j'avais aussi un tour à bois, vous savez, un tour à bois. Je n'ai jamais appris à tourner. Je l'ai fait tout ça. D'ailleurs, j'ai tourné du bois exotique. Ça m'a donné un cancer. Pour ceux qui me connaissent, j'ai eu un cancer dans le narine. Hein. Si bien que j'ai eu la chance qu'il n'était pas tout près du cerveau et pas tout près de l'œil. Et l'opération a bien réussi.
Y a-t-il certaines de vos réalisations que l'on peut voir aujourd'hui à la Vraie Croix ?
Ah oui, hein, des petits sujets, des assiettes, des bols, des choses que j'ai tournées. Ben, des meubles, ben, y en a un petit peu partout. Hein. L'église, vous savez, j'ai été sacristain pendant, je ne sais combien, je crois que c'est 33 ans. Et j'avais ça à cœur. Et j'avais beau dire et beau dire, redire, il est temps de faire quelque chose à ces boiseries, autrement ils vont tomber en rue. J'avais lancé ça à l'église un jour. Alors j'ai dit à Mémé, je voudrais bien, Mémé, c'est ma femme. Eh bien, je dis à Mémé, je voudrais restaurer les choses. Oh là là, le diable dans le bénitier. Elle ne voulait pas que je dis, si la commune accepte de me déléguer les employés communaux pour démonter les boiseries et puis les amener à l'atelier... Et tout ça, je n'aurais pas grimpé à l'accepter. J'ai donc tout rénové les boiseries de l'église. J'ai mis quatre années d'hiver. Tout est allé à l'atelier, tout, mais tout, y compris le chemin de croix. Toutes les peintures avec les gros yeux de ceux qui avaient peur que je ne savais pas faire de peinture. Et j'ai tout restauré, ces boiseries-là, tout.
Quatrième étape de cette vie de Fernand Le Dirac, l'engagement comme maire. Au micro, June.
Aujourd'hui, au Conseil municipal des jeunes, on découvre ce que veut dire s'impliquer pour les autres. Vous, vous l'avez fait pendant de nombreuses années pour tout un village. On aimerait comprendre ce qui vous a donné envie de vous engager et ce que cela représentait pour vous au quotidien.
Alors, pourquoi je me suis engagé le maire ? Parce que quand on était jeune, je faisais partie d'un mouvement. La JA, c'est le mouvement d'action catholique. Là. En 1950, on était 70 000 réunis au Parc des Princes, dont deux de la Vraie Croix, moi et Alain Louis. On nous disait que si vous voulez du changement, il faut rentrer dedans. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé. On a essayé de faire une liste aussi. Et la première fois, donc, je n'avais pas pensé. Le dimanche matin, on tenait le café, mon père vient frapper vite, vite au plafond. « Viens vite, Fernand, il y a une veste pendue à la carotte du bureau de tabac. » Comme je n'avais pas été élu, ils avaient fait cette veste. Ils avaient marqué « Investiture manquée, réussite jamais, jésuite ». Ce couillon d'Alain Louis qui était là, on était quand même des cabochards, le maire, il avait le café de la gare. Il passait son niveau. Alain Louis, mon copain, prend la veste et on a été s'inviter au repas du... avec ma veste. Vous voyez, c'est pas facile, hein. Ou c'est moi qui n'est pas facile.
Qu'est-ce que vous retenez de vos 24 années en tant que maire?
Je vais vous faire une confidence. Je l'ai dit une fois dans une réunion. Vous savez, être maire du pays, c'est relativement facile, mais ne plus être maire, c'est pas marrant. Et c'est ce que j'ai vécu. Vous voyez ?
Est-ce qu'il y a un projet ou une réalisation menée pendant vos mandats qui a changé la vie du village ?
Vous savez que la Soprate à la vraie croix, c'est quand même une histoire qu'il faut garder. La Soprate de la vraie croix, elle a été arrivée dans les années 80. Figurez-vous qu'on est venu me trouver en tant que maire avec un autre de Castanmer me disant « Est-ce que vous seriez candidat pour recevoir une usine ?» Sans réfléchir, sans terrain, j'ai dit oui. Bon, ça a été bagarré parce qu'il y avait un conseiller général qui s'appelait Brian, qui était le cadeau, lui aussi voulait avoir cette... Mais figurez-vous qu'ils ont choisi la vraie croix. Partir de là, avoir le financement, je vous parle d'anciens francs, 650 millions de francs, plus que le budget. Il fallait la construire, trouver le terrain, on a tout trouvé. Et le prêt, on l'a trouvé aussi, mais il fallait des cautions. Figurez-vous, tous mes copains, maires du canton d'Elvin, ont refusé de cautionner le chose. Sauf un, le maire d'Elvin, le docteur Michel, qui a bien voulu cautionner le prêt de 600 millions que là. Et l'usine s'est faite. Et qui emploie je ne sais combien là. Vous voyez, un tout petit peu. Ça nous a fait faire aussi, parce qu'il n'y avait pas de station d'épuration. Station d'épuration et tout ça. Tout ça est venu en même temps à la vraie croix. Ça, c'est quelque chose d'incroyable et ça continue. Hein.
Des bâtiments aussi, des équipements?
Celle des sports, terrain de foot. On a restauré une première fois la chapelle. Tous les joints extérieurs, une deuxième fois tout l'intérieur. Ah, ça, c'est une chose aussi que je dis là. Hein, pour là. Écoutez-moi bien, quand on fait des travaux, il y a un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, c'est celui qui conseille, hein, qui donne des plans et tout ça. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui paye. Et pour la chapelle, ça a été le cas. Les architectes des bâtiments de France n'ont, de mon temps, n'ont jamais eu la loi à la vraie croix. Il faut dire aussi que cette chapelle, j'y tenais parce que j'ai été à l'école pendant la guerre dans cette chapelle quand les Allemands avaient réquisitionné l'école. Voilà.
Vous êtes aussi à l'origine du fleurissement de la commune.
Je voudrais pas peut-être me ramasser tout ça, mais non, c'est vrai qu'on a... On est venu d'un petit peu partout à la vraie croix pour les fleurs. Quand j'ai été élu, je voulais simplement rendre notre bourg accueillant et j'avais construit 11 jardinières qui étaient sur le mur de l'église. Et c'est moi-même qui les arrosais, qui plantais tout ça. Toutes les boutures qu'on a fait au départ, hein, c'est une dame du village de Dubot que j'ai honorée un jour, qui m'a appris à faire les boutures de géranium, et on faisait nos boutures de géranium. Et c'est comme ça qu'on a eu, le prix départemental, le premier prix régional, la première fleur, la deuxième fleur, le grand prix national du fleurissement, et enfin, le premier prix européen. On a été chercher le prix. Monique était maire à l'époque. Monique et son époux, Jean-Luc et sa femme, moi et bébé. Les gens ont commencé à changer. Combien que ça va coûter encore ce voyage-là? Eh bien, écoutez, Monique a payé son voyage. Moi-même, j'ai payé le voyage. Et Jean-Luc a payé son voyage, vous m'entendez? Alors que ça aurait été normal, plus que normal, que le jardinier soit exonéré. Le jardinier, il a casqué aussi, comme les autres. Voilà. Et on a été en Hongrie, oh, le séjour qu'on a passé là-bas.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a des valeurs ou des principes que vous avez toujours essayé de défendre?
Les valeurs humaines, moi j'estime que... Ça dépendait peut-être des tempéraments. Moi, j'aime bien vivre avec les autres. C'est ça peut-être qui fait ma force. J'aime bien faire comme les autres. Quand j'ai été élu maire, regardez un tout petit peu comment c'est mesquin. Quand j'ai été élu maire, on avait un petit pot à la salle. Là. Il y avait la danse du canard à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La danse du canard. Et ben moi aussi, j'étais à danser la danse du canard. Une belle dame vient me trouver. Vous aussi, monsieur le maire, vous dansez ça? Et ça m'a choqué, comme si un maire ne pouvait pas danser ce qu'il voulait. Non, mais voyez un tout petit peu hein, comment c'était jugé. Le maire n'avait pas le droit de chanter la danse du canard. Non, mais. Ouais, mais ça, c'est véridique. Hein.
Dernière étape de ce voyage au regard du temps qui passe. Et c'est Romane qui est derrière le micro.
On aimerait prendre un peu de recul pour terminer cet entretien. Nous, on est au début de notre vie, avec un monde en constante évolution. Vous, vous avez connu beaucoup de changements. On aimerait bien avoir votre retour et quelques conseils aussi. Mais avant ça, tout à l'heure, vous avez parlé de Mémé, votre épouse. Elle a passé sa vie à vos côtés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle?
Mémé, elle était... Premièrement, le café. Les enfants, parce qu'on a des enfants aussi, hein. Et puis la recette buraliste et la poste. L'agence postale passait le matin à 6 heures. C'est moi qui me levais pour recevoir. Elle triait tous les courriers. L'argent qu'il y avait là, c'était des sommes. Les allocations familiales étaient payées là. Il y avait aussi la recette buraliste. Vous saviez que celui qui était récoltant de pommes pouvait faire de l'eau de vie, 100 degrés. Vous savez, l'alambic venait, on avait trois ateliers où il y avait l'alambic. Un, auprès du plan d'eau, il n'y avait pas de plan d'eau à ce moment-là, c'était le chemin du Pont-Palais. Un autre à Carnel, puis un autre sur la route de Questembert à Kersiné. Et là, les gens venaient faire leur laisser-passer. Chez Mémé. Alors tout ça, Mémé faisait ça. Alors le soir, quand j'étais en réunion, parce qu'on avait les réunions, mais on venait quelquefois boire un coup après. Alors on réveillait Mémé, quoi, dans le café. Pauvre Mémé.
Est-ce qu'il y a des choses d'autrefois que vous regrettez, ou au contraire, que vous êtes heureux d'avoir vu changer?
J'ai envie de chanter la chanson Edith Piaf, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Non, mes enfants, non. Changer. Vous trouvez, vous? Tu trouves, toi, Mazalé, qu'il y a des choses qui changent? Le dialogue, là, je pense pas que ça existait. Ça n'existait pas. C'est quand même un changement. Dans le fond, c'est moi qui ai tort. C'est un changement avant. Hein, et vous êtes partie prenante. À nous, maintenant, de vous montrer l'exemple. Faut-il qu'il soit bon.
Est-ce qu'il y a un conseil ou une leçon de vie que vous aimeriez partager?
Oui. Je crois que on est dans un monde de plaignards. Rien ne va pas bien, rien. Alors, moi, je crois que il faut vivre avec le temps. Être heureux comme on est. Et je crois que tout se passerait bien.
Vous êtes content de votre vie?
Moi? Est-ce que je parais malheureux?
Non.
Hein? Regardez-moi bien, ma jolie. Non. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux que vous me posez des questions. Alors, ça n'existait pas de notre temps. Hein. Ça n'existait pas de notre temps. Hein. C'est vous qui avez fait ça. Et continuez. Continuez. Oui, oui.
L'an dernier, pendant la cérémonie du 8 mai, vous vous étiez adressé aux enfants. Vous vous souvenez de ce message?
Le message que j'avais entendu, oh, je me rappelle très bien, je ne sais pas qui c'est qui avait relevé ça. Ça m'a touché, mais énormément, comment ça a été pris. J'ai eu après, ça a passé dans le bulletin municipal et tout ça. Et le message que j'avais dit aux enfants, les enfants, plus jamais de guerre. Je crois que c'est ça le message que j'ai donné. Vous n'étiez pas d'accord? Hein? Et je redis encore, hein? Je suis un petit peu révolutionnaire, mais j'ai envie de vous chanter La Butte Rouge, c'est son nom. Vous ne connaissez pas? Je vais vous la chanter, mes enfants. La Butte Rouge, c'est son nom, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit le sang des copains. Ah, ce qu'elle en a bu du sang, cette guerre, sang de marins, sang de paysans, mais les bandits qui sont cause de ces guerres, on ne les tue pas, on tue que des innocents. Vous voyez que je suis révolutionnaire de ce côté-là. C'est pour ça la guerre, non, pas de guerre, la paix, la paix. Bye.